À l'occasion des 20 ans de Radio Pulse qui fêtera son anniversaire le 6 janvier prochain, Tony a interviewé Eric, le tout premier bénévole de l'association. Animateur de l'émission Pause Vélo, mais aussi réalisateur de films engagés, il nous raconte ce parcours.
Eh bien, je suis en ligne avec une voix que nos auditeurs connaissent, que les Alençonnais, Alençonnaises, Ornais, Ornaises connaissent. Salut Eric.
Salut Tony, ça va?
Ouais, toi?
Ça va, impeccable.
Donc, bien connu, nos auditeurs, auditrices, pour être animateurs, notamment de Pause Vélo, mais pas que, puisque en fait, je me suis rappelé à l'approche des 20 ans de la radio que tu étais notre tout premier animateur bénévole à l'époque. Est-ce que tu as encore quelques souvenirs de la façon dont tu es arrivé à Radio Pulse il y a 20 ans?
Ah ouais, ouais, carrément. En fait, je crois que je t'avais rencontré dans un bar alors que tu mettais en place la radio, et puis j'avais trouvé que le projet était cool. Je peux même te confier un secret. En fait, c'est un chagrin d'amour qui m'a fait arriver à la radio.
Ah, ça se fait pas, tu vois.
Je m'étais fait plaquer, ah, et je m'étais dit, il faut que je m'occupe l'esprit. Et du coup, voilà, c'est ça qui a conclu le truc, que fallait vraiment que je fasse de la radio, que ça, j'ai une activité, quoi. Et c'est comme ça que j'avais créé l'émission Terra Innativa.
Ouais, c'était le jeudi soir.
C'était l'émission mythique du monde, quoi.
Voilà. C'était le jeudi soir, je m'en rappelle très bien, ouais.
Ouais, oh la vache, oui, c'est ça, exactement.
Et, et quelques temps après, tu as fait la connaissance de Sylvain, qui t'avait développé une autre émission.
Oui, ça faisait 6 mois que je faisais de la radio. Sylvain, mon copain Sylvain, est arrivé et puis voulait faire une émission. On a commencé à faire Terra Innativa ensemble. Puis ensuite, on a fait l'émission du matin. Tous les mercredis matin, on avait l'émission joyeuse, déconne. Avec des sketchs et tout ça. On est même passé au bout de quelques années au direct. On avait 2 heures de direct. Alors, il fallait être complètement fou, hein, parce qu'on faisait 6 heures, 8 heures. Non, je dis.
Ouais, okay,
non,
c'était 7 heures, 9 heures.
Ouais. C'était, ouais, tu te rends compte? Ah ouais. Il se lève en semaine juste comme ça, quoi.
Ah, moi j'ai le souvenir que le matos était tellement pourri à la radio à l'époque, t'avais carrément c'était souvent Cyril qui arrivait tôt le matin à 6h et qui réinstallait tout un studio pour réussir à faire quelque chose dans de bonnes conditions,
voilà, pour être sûr, ouais.
Ouais, c'est vrai que c'était assez précaire. Donc après tout ça avec Sylvain, au bout de je sais pas, peut-être 4 ans 5 ans, alors moi déjà j'ai un souvenir qui me vient comme ça à l'esprit. À un moment, c'était un mercredi matin, partir en direction de la gare SNCF, prendre mon train donc à pied du FJT, foyer Lancrel où était la radio à l'époque, jusqu'à la gare SNCF, et de voir le gars qui changeait les affiches, tu sais, dans les arrêts de bus, vous écoutez à fond les ballons, puis se marrait, quoi. C'était chouette.
Ah, c'est vrai? Ah, ouais. J'étais pas au courant de cette anecdote.
De toute cette expérience-là, au bout de 4-5 ans, c'est ça, à peu près 4-5 ans d'existence de l'émission du matin, après vous avez décidé de upgrader un petit peu ce plaisir que vous preniez comme ça à faire de la radio, en mettant l'image en plus, vous avez fait de la télé. Alors comment ça s'est passé cette histoire?
Alors en fait, il y a Normandie TV, la chaîne Normandie TV qui s'est montée, et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose. Du coup, on a dû monter une association, parce qu'il a fallu qu'on s'achète du matos, choper des subventions. Et on a proposé à Normandie TV de faire une émission d'une demi-heure tous les mois. Alors, une demi-heure tous les mois, je peux te dire que c'était plus de boulot qu'une heure toutes les semaines à la radio.
Ah, 2 heures
toutes les semaines à la radio. Et ça, on a appris sur le tas. Et puis, Normandie TV a commencé à nous diffuser. Donc, pendant 2 ans, on leur a filé une émission tous les mois. C'était un travail de dingue. Ça nous a appris, alors à la radio, on a appris à faire des interviews, à animer, à monter, mine de rien, parce que quand il y a des sketchs et tout ça, qu'il y a des jingles, il faut faire du montage, il faut que ça soit propre, quoi, que tout s'enchaîne. Finalement, cette expérience-là qu'on a eue à la radio, ça nous a servi pour les interviews, pour savoir comment rythmer une émission, et puis quelque part faire du montage et ensuite coller les images dessus, quoi.
Voilà, donc là, il a fallu gérer l'image en plus du son, quoi. Donc c'était beaucoup plus complexe. Et de cette émission, vous en êtes passé, j'ai le souvenir, là, à animer des matchs de hockey, je crois, pendant un moment.
Oui, alors moi j'ai toujours été fan de hockey sur glace, gros fan de hockey sur glace, et puis on s'est aperçu que Normandie TV filmait les matchs, alors là j'ai proposé si je pouvais éventuellement commenter, puis finalement j'ai embarqué tout le reste de l'équipe, et j'étais plus seulement le commentateur, j'étais le commentateur, mais il y avait tout le reste de l'équipe de Bienvenue chez toi, parce que c'était le nom de l'émission qu'on avait sur Normandie TV, Bienvenue chez toi, on était une dizaine dans l'équipe. Ils venaient tenir les caméras et faire l'enregistrement avec moi. Et là, c'était pendant, je crois, deux saisons. On a couvert tous les matchs du club de Caen. Et c'était, pareil, du bonheur en Barse.
Et de ces expériences-là, vous avez tous les deux rebondi, chacun de votre côté, sur des projets un peu plus perso. Je sais que Sylvain, après, a travaillé un petit peu pour la télévision, fait du mapping vidéo. Et toi, t'es parti plus sur le documentaire. Comment t'as fait ce petit chemin-là, en fait, de passer de la télé au documentaire comme ça? C'est vraiment la télé qui t'a donné envie d'aller dans cette direction-là?
Oui, l'image, en fait, moi j'ai toujours été militant environnement et tout ça. Et quand Bienvenue chez toi, l'émission, on a dû arrêter parce que finalement, on n'était pas payé sur Normandie TV. Donc on a dit ça suffit, quoi, on ne peut pas continuer éternellement comme ça. Mais en même temps, on avait un savoir-faire, on avait du matos. Je trouvais ça dommage que ça s'arrête là. Je travaillais au lycée agricole de C, qu'il y a un festival de films sur l'environnement. J'ai lu un bouquin que j'avais trouvé super, qui était sur l'environnement, puis qu'on pouvait imager, quoi, qu'on pouvait filmer, qu'on pouvait tourner en film. Ça s'appelait Homo disparitus. Enfin, ça imaginait l'homme disparaît, comment la nature revient. Finalement, j'ai fait un film, pas spécialement à partir du bouquin, mais en m'inspirant de cette idée-là. Ça s'appelle Quand la nature reprend le dessus. Ça change complètement d'une émission télé, mais je me suis inspiré de tout ça pour faire un petit documentaire de 26 minutes qui imagine qu'est-ce qui se passe si l'homme disparaît, comment les arbres repoussent en ville, qu'est-ce qui reste au final de l'humanité. Et puis ce film, il a bien plu, quoi. Il a été diffusé dans plusieurs festivals.
Ouais, gros succès. Ouais, c'était sorti en 2008, il me semble. Et c'était celui-là qui avait été diffusé devant les chefs d'État, je crois, à l'ONU, non?
Oui, alors à mon grand étonnement, après une diffusion dans un festival à Paris, j'ai reçu un coup de téléphone. Alors ma coloc est en train de prendre le petit déjeuner avec moi, elle a vu ma tête changer au fur et à mesure que je répondais au téléphone. Puis quand je raccroche, je lui dis « c'est l'ONU qui m'a appelé ». Et en fait, il y avait une conférence préparatoire à une COP, c'était la COP, la COP 8, j'en sais rien, je sais plus laquelle c'était. Et du coup, il voulait avoir des images d'un futur possible, et le film tombait bien. Et du coup, il a été diffusé par l'ONU, et là, je me suis dit, ça marche dans les festivals, l'ONU le diffuse, c'est mon tout premier machin, peut-être que je suis fait pour ça.
Et donc après,
et là, ça m'a lancé.
Galvanisé, remonté à bloc, 2010. Sortie de Pesticides en amour.
2012, Vélotopia. Là, je deviens professionnel. Là, ça devient mon métier pour de vrai. C'est plus un loisir parce que avant, je restais. J'étais toujours surveillant dans un lycée, quoi. Uh-huh. Je sors du bénévolat, puis je deviens professionnel. Et puis, depuis, je sors un documentaire tous les 2-3 ans. Parce qu'en fait, c'est assez long. Donc, il y a eu un autre documentaire sur les pesticides non agricoles, ça s'appelait
Bye Bye Pesticides, 2016.
Ensuite, un documentaire sur le réchauffement climatique en 2017,
2018, ouais. Là, ça chauffe.
Et puis, le dernier, premier long métrage qui est sorti au mois de mars, Les Gardiens du Climat. Le premier long métrage avec vraiment format cinéma. Et tout. Je rigole plus, c'est pour de vrai.
Alors, j'ai vu que tu avais pas mal tourné de cinéma en cinéma avec Les Gardiens du Climat, justement. Quel retour tu as du public à ce sujet?
En fait, il sort à un moment donné où vraiment là, il y a une grosse, grosse prise de conscience sur le climat.
Ouais, au sortir des deux confinements, du Covid, tout ça.
Voilà, puis là, le réchauffement qui se voit. Là, ça se voit, le plumier, sécheresse et tout ça. Et alors, en même temps, il sort juste après Covid, et clairement, les cinémas, c'est pas que moi, c'est tous les films, il y a un bon quart de spectateurs en moins. Mais cependant, il y a plus de projections, parce que ça fait 10 ans quand même que c'est mon métier, du coup, j'ai commencé à tisser un réseau, du coup, il y a pas mal de projections, il y a peut-être un peu moins de monde dans les salles, mais finalement, je crois qu'il est plus vu que les autres. Et puis, moi, je fais des docu-comédies, c'est des trucs drôles. Donc, les gens... ils sont contents de voir qu'on peut parler d'environnement, un sujet sérieux et alarmant, mais de façon légère et de façon à... qui donne envie d'agir, quoi. Quelque chose d'entraînant. Et ça marche. En fait, il marche plutôt bien. Je suis content. Souvent, les gens, ils sortent de la projection. Ils demandent où est-ce qu'il va être projeté après. Ils demandent comment est-ce qu'on peut le retrouver, le film. Donc, je suis assez content du résultat final, en fait.
Ouais, avec de l'humour, mais tu mouilles la chemise aussi. Hein. J'ai le souvenir avec Vélotopia, par exemple, que tu avais pris un gros risque en allant te rendre en vélo sur au Place de l'Étoile.
Ouais, l'Arc de Triomphe.
L'Arc de Triomphe.
Ouais,
t'as pris des sacrés.
Ouais, dans Vélotopia, j'ai fait le tour de l'Arc de Triomphe. À la limite, je regrette un truc maintenant, si je devais le refaire, je le ferais genre avec une armure ou une combinaison de footballeur américain, c'est pour marquer encore plus le coup. Mais bon, voilà, on pense jamais à tout quand on sort un film, c'est après qu'on imagine des conneries. Enfin, tu sais, c'est comme... moi, je dis souvent qu'un documentaire, mais c'est pareil pour les films, tu sais, c'est comme la peinture. Tu fais un beau tableau, tu peins... Et à un moment donné, tu dois te poser la question, à partir de quand le prochain coup de peinture, le prochain coup de pinceau que je vais donner, il ne rendra pas l'œuvre plus belle. Limite, peut-être, il la nuira. Ben, c'est pareil, quand tu fais un documentaire, tu as toujours envie d'améliorer. Mais à un moment donné, tu ne sais pas s'il faut aller plus loin ou pas. Donc, bah, des fois, tu t'arrêtes, puis c'est seulement plus tard que tu regrettes, quoi.
Et donc là, tu es déjà en train de travailler sur un prochain, non ?
Oui. En fait, bah, mon préféré de tous les documentaires que j'ai sortis, c'est Vélotopia.
Ouais.
Qui est sorti donc, en 2012. Bah, je suis en train d'écrire Vélotopia 2.
Ah, génial.
Entre 2012, quand Vélotopia est sorti, et aujourd'hui, il y a eu des changements énormes. Déjà, il y a le vélo électrique qui est arrivé.
Ouais.
Donc, ça a remis beaucoup de monde en selle. Il y a les vélos cargo qui ont pu émerger grâce aux vélos électriques parce que tu peux avoir des vélos avec des grosses caisses pour transporter des enfants, pour transporter des gros objets. Donc ça, ça change les choses. Il y a des professionnels qui se mettent au vélo au lieu de la camionnette. Il y a eu les coronapistes qui, pour certaines, se sont pérennisées. Et puis bah, maintenant, il y a le prix du pétrole qui va faire que de monter. Je préfère avertir tout le monde. Hein.
Ah ouais,
on peut dire que c'est de la faute du méchant russe, là, mais c'est pas ça. C'est que c'est une denrée qui se raréfie. La terre, elle a des limites, les ressources sont limitées. Et c'est la fin. Les pays de l'OPEP, ils savent très bien que bon, bah, là, il va falloir serrer le robinet parce que bah, il n'y en a plus. Donc on peut se rebeller autant qu'on veut, on peut se plaindre autant qu'on veut. Ça va faire que de monter en flèche. Et avec ça, le prix de toutes les énergies. Quoi. Donc ouais, je m'étais battu, j'avais mouillé le maillot dans Vélotopia à l'époque, et bah, aujourd'hui, Vélotopia 2, il y a des choses nouvelles à dire et à montrer. Les idées que j'avais pas pu mettre en place à l'époque dans le premier Vélotopia, bah, ça sera dans le nouveau, quoi.
Et bah, d'ailleurs, le vélo, c'est vraiment ton dada, comme on pourrait dire, puisque depuis à peu près 5 ans, tu as repris le micro de la radio pour animer une émission qui est diffusée sur plusieurs radios et qui s'appelle Pause Vélo. Est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots ?
Oui, alors Pause Vélo, c'est une émission dont je suis très fier. On a gardé l'esprit de, bah, des documentaires que je fais. Donc, on parle d'un sujet sérieux, mais drôle. Et en n'hésitant pas à prendre un peu de distance, quoi. Du coup, bah, dans Pause Vélo, on vante le vélo comme mode de déplacement. On incite le plus possible à prendre son vélo. Tu vois, moi, je prends comme exemple les pubs. Tu vois, la pub, jamais on te dit, jamais on t'explique par A plus B avec des équations pourquoi c'est bon pour toi d'acheter tel ou tel produit. On va toujours te dire, bah, si tu achètes tel parfum, tu vas pouvoir augmenter le nombre de tes partenaires sexuels. Si tu bois telle boisson, tu vas être un mec fun, tu auras plein de copains-copines. Si tu achètes telle pâte à tartiner, tu vas rendre ta famille heureuse. Tu vois, on joue toujours sur ça. Le problème, c'est que ça marche. Et je pense que si on a des bonnes intentions pour l'humanité, il faut se battre avec ces armes-là parce que ça marche. Donc, si on veut sauver l'humanité, l'écologie, le climat, eh ben, autant utiliser des formules qui marchent. Avec Pause Vélo, on essaie de faire une émission fun, un truc drôle. Évidemment, il y a un fond sérieux et militant, mais on a envie que n'importe qui ait envie d'écouter l'émission et de se dire bah, « je vais passer une demi-heure sympa ».
En fait, vous êtes un gros staff autour de Pause Vélo, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu sur Lançon, d'autres qui sont un petit peu ailleurs, non, c'est ça ?
Ouais, alors en fait, on peut dire presque qu'il y a trois équipes. Il y a une équipe avec qui j'enregistre en Suisse, parce que je vis à moitié en Suisse et à moitié à Alençon. Il y a une équipe avec qui j'enregistre à Alençon. Et puis, on a plusieurs chroniqueurs extérieurs, c'est-à-dire, c'est des gens qui vont habiter ailleurs en France et qui vont enregistrer leurs petites chroniques dans l'émission, avec un petit bruitage, de la musique, etc. Et puis, qui vont nous l'envoyer, puis qu'on va diffuser quand on fait l'enregistrement avec les équipes en studio. Du coup, bah, ouais, ça fait pas mal de monde. Et du coup, ça divise le boulot et ça nous permet d'avoir quand même de la qualité. Et ça, c'est cool, quoi.
Alors, j'ai une dernière question, mais là, qui est plus sur ton sortie vraiment personnelle autour du vélo. Là, on voit de plus en plus de vélos, même de trottinettes. Enfin, le mode de déplacement a changé, surtout depuis ces histoires de Covid, de confinement, etc. Donc, on voit de plus en plus de vélos, de trottinettes électriques circuler. Est-ce que tu as l'impression que les pouvoirs politiques ont pris la mesure de ce changement et arrivent à s'adapter assez rapidement, ou est-ce que tu considères que les pouvoirs politiques ne sont pas assez à l'écoute là-dessus et que du coup les cyclistes, les trottinettes sont particulièrement en danger en France par rapport à peut-être d'autres pays ?
Bah, clairement, les pouvoirs politiques ne sont pas à l'écoute du tout. Il faut vraiment faire du forcing pour que les choses changent. Ils ne prennent pas la mesure de... En fait, il ne faudrait pas juste accompagner les cyclistes, il faut vraiment inciter à tourner la société dans une société du tout vélo plutôt du tout automobile. Vu la fin des ressources, le réchauffement climatique, c'est catastrophique, c'est en train de nous guetter. Et les politiques, ils ne prennent pas du tout la mesure de ce qui nous guette. Je peux te donner un exemple concret pour être en contact avec plein d'associations de promotion du vélo dans différentes villes. que ce soit au Mans, à Paris, à Strasbourg, ces associations-là, elles n'en peuvent plus, elles crèvent de ne pas être écoutées par les collectivités. Une ville va mettre en place un réseau cyclable et tout ça, elle ne va pas consulter l'association de vélo du coin. Juste ne serait-ce que, allez, venez les gars, on va boire un café, voilà ce qu'on vous propose, est-ce que vous trouvez que c'est cool ou pas ? Alors, les associations se battent, sont obligées de revendiquer, et alors elles voient des fois des pistes qui servent à rien, des aménagements complètement nuls, des choses pour attacher les vélos qui vont plus abîmer les vélos qu'autre chose, qui sont mis en place. Et ces associations-là, des fois, elles auraient envie de dire à leur collectivité, bah non, économise des sous, le fais pas ça. Et elles sont pas écoutées, alors qu'à côté, il y a des fois des choses assez simples à faire, qui sont pas faites, parce que ben les élus, ils ont une sociologie, une typologie sociale particulière. C'est souvent des hommes de plus de 50, 60 ans, qui ont les moyens, qui se déplacent pas à vélo, puis qui connaissent pas les choses. Et même parfois, les techniciens qui travaillent dans les collectivités, qui doivent mettre en place le réseau cyclable, eux-mêmes ne font pas de vélo ou ne connaissent pas la ville. Donc finalement, c'est assez catastrophique ce qui se passe, au moins en France, par rapport au vélo et au déplacement doux. T'as quelques élus des collectivités qui font le job. Faut avouer quand même qu'à Paris, les élus ont été courageux, hein, parce que quand Hidalgo et puis son prédécesseur ont mis le Vélib et les pistes cyclables, tout ça en place, il a fallu qu'ils se battent. Mais ça porte ses fruits. Quand les élus décident de mettre le paquet, ça marche. Mais il faut qu'ils aient envie de le faire.
Très bien. Eh ben, le message est passé. Merci Eric. C'est toujours passionnant de discuter avec toi. Et puis on te retrouve prochainement sur les ondes de Pulse avec Pause Vélo.
Ça marche. Salut Tony, à plus.
À l'instant, c'était l'interview d'Eric, tout premier bénévole de Radio Pulse et animateur de l'émission Pause Vélo. Il a répondu aux questions de Tony à l'occasion des 20 ans de la radio que nous célébrerons le 6 janvier prochain.